députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, et le ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.
Bienvenue aux 50 ans de CKRL, une série d'entretiens avec les pionniers de la première radio francophone au Québec.
Denis, on avance tranquillement vers notre époque contemporaine de CKRL. On va se placer maintenant à partir de 2007 jusqu'en 2015. Quand même un 10-15 ans bien rempli pour la station. Nous sommes à Limoilou à ce moment-là. Beaucoup de passages, toujours cette centaine de bénévoles et des personnalités qui commencent comme chroniqueurs par exemple à CKRL et qui vont occuper des postes importants par la suite. Quel souvenir toi tu as de cette époque, peut-être, je ne sais pas si tu la vois comme de transition, parce qu'il faut s'installer à Limoilou aussi.
Nous avançons, comme tu l'as dit, Jessica, au 21e siècle, dans les deux premières décennies. Et moi, je pense qu'il faut les scinder en deux, peut-être. Tout simplement, les premières 10 années, jusqu'en 2010, et l'autre décennie. Et il y a eu des collaborateurs qui ont fait beaucoup pour la programmation, mais de façon assez brève, comme Bastien Gagnon La France, Mathieu Dugal, et il y en a eu d'autres. Mais moi, quand je prends ma retraite de mon emploi professionnel et que j'y ai soudainement disponible dans le jour en 2010, trois animateurs qui me semblent particulièrement engagés. Il y a Jean-Sébastien Grondin, Raymond Poirier et Tania Beaumont. Et c'est une décennie donc où nous avions, on en a déjà parlé au plan financier, il y a eu des hauts et des bas, où c'était une autre période de reconstruction. Mais à partir de 2010, et c'est là que Raymond et par la suite Tania entrent en jeu, je dirais une nouvelle décennie, un peu comme les années 90, d'une stabilité, je pense, d'un enrichissement et d'une stabilité.
Si vous suivez l'émission 50 ans de CKRL depuis les débuts, vous l'aurez compris, ce sont des montagnes russes pour CKRL, ce voyage dans le temps. On entre donc dans cette décennie 2000-2010 avec nos deux invités aujourd'hui, Raymond Poirier et Tania Beaumont.
Bienvenue aux 50 ans de CKRL, une série d'entretiens avec les pionniers de la première radio francophone au Québec.
Bienvenue dans 50 ans de CKRL, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver comme à chaque semaine avec Denis Lelièvre, mon encyclopédie humaine de la station. Bonjour Denis.
Merci, bonjour Jessica.
On se rappelle les souvenirs de la construction de la station, puis bon, bah là on est bien avancé puisqu'on se rapproche tranquillement de 2023. On accueille des personnalités que vous connaissez forcément, ils ont marqué l'histoire de CKRL pendant au moins 15 ans. Je commence par celui qui est arrivé en premier. Alors, c'est Raymond Poirier, arrivé en 2001 à CKRL et encore animateur bénévole à CKRL aujourd'hui. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Tu es même passé par le statut employé à travers ces 22 ans
d'application. Pour moi aussi.
Oui. Raconte-nous, parce que tu dis toujours que tu as commencé ta carrière en communication sur le tard. Toi, comment t'as connu CKRL à l'époque?
Ben, en fait, je faisais une pièce de théâtre à l'Université Laval et j'ai été invité aux Enfants du Paradis. C'était Hélène McLeish qui m'avait reçu. J'avais fait une entrevue qui visiblement était intéressante, puisqu'après l'entrevue, elle me dit « Ben, t'attendrais-tu de faire des chroniques? » Et on m'a appâté avec l'idée, justement, que si je faisais des chroniques, ben, je pourrais avoir aussi des billets gratuits pour aller voir des pièces de théâtre. Alors, l'appât du gain m'a amené à la radio et j'ai commencé un peu à CKRL à faire des chroniques par-ci, par-là. Ensuite, j'ai attrapé la piqûre. J'ai commencé à en faire à CKRL, mais aussi à d'autres radios dans la région de Québec. Et éventuellement, fait le saut vers des chroniques cinéma à l'émission du matin, les matins distincts avec Denis Duchesne. J'étais son chroniqueur cinéma attitré. J'ai pu me gaver de projections de presse. Et là, tranquillement, ben, on nous offre des opportunités. Il y avait donc le directeur de la programmation de l'époque, Éric, qui m'avait dit, ben, pourrais-tu animer les émissions en sortie au Festival de cinéma des Trois Amériques? Et là, subitement, moi, qui n'avais pas une grande expérience d'animation, je me retrouvais à animer une émission avec des Pierre Blais et Mathieu Dugal comme collaborateurs. Ça fait des belles fausses au lion. Et évidemment, avec des expériences comme ça, il y a une certaine confiance qui rentre. Par la suite, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je pourrais avoir mon émission cinéma. Alors, je me suis dit, ben, on fait la demande, finalement on a dit oui, on m'a donné un petit créneau de fin de semaine pour parler de cinéma de genre, de cinéma d'horreur, cinéma de série B essentiellement. Puis tranquillement, j'en suis venu à avoir un statut d'employé en 2006 là, comme responsable de l'émission du matin.
Avant 9h, tout est possible. Émission dont on parlera par la suite. On va déjà accueillir notre deuxième invitée pour qu'elle puisse réagir aussi à tout ça, parce que j'entends déjà beaucoup de points communs. Tania Bonmont. Bonjour Tania.
Allô.
Arrivée en 2007 à CKRL, toi aussi, t'as été bénévole, puis animatrice employée, directrice de la programmation et musicale aussi pendant plusieurs années.
Ouais.
Toi, tu venais de la radio privée.
J'avais fait un passage, oui, j'ai étudié en ATM à Jonquière en animation radio, puis je suis allée travailler presque un an à Rivière-du-Loup là, dans une radio commerciale, musicale là-bas, puis je suis revenue à Québec finalement, et je restais sur la 3e avenue, puis je connaissais Jean-Sébastien Grondin parce qu'il fait de l'improvisation, puis il m'a dit ben oui, mais CKRL, là, lui il était déjà impliqué, va voir, puis j'ai commencé en faisant une chronique sport dans l'émission de Raymond, le matin je faisais ça 2 fois par semaine, puis finalement l'été arrivait, puis là, je me suis dit, ben là, moi j'étais sur le show chômage, je me suis dit pourquoi pas m'impliquer à temps plein, tu sais, ou je sais pas, quelque chose du genre. Puis je suis allée voir la directrice ici, qui était Nancy Gagnon à l'époque, je lui ai dit, vous pourriez m'engager. Elle a dit, peux-tu avoir une subvention du gouvernement? Puis, ouais, j'étais sur le chômage, donc oui. Mm-hmm. Et j'ai été engagée pour faire des remplacements, entre autres l'été, j'avais remplacé Raymond dans ses vacances, Yves Dubois aussi à la production publicitaire pour faire tout ça pendant quels mois, puis finalement je suis restée.
Quel souvenir tu gardes, toi, de tes débuts, Tania? Raymond nous en a parlé là, que tout de suite à côté j'allais dire d'animateur chevronné, des fois c'est quelques années d'expérience, mais ça suffit pour faire la différence, toi, les débuts?
Ben, j'en garde la possibilité de tout faire parce que j'ai commencé en remplaçant. Donc, tout de suite, j'animais l'émission du matin quand même. Et Raymond, toi aussi, t'as dû avoir un peu ce sentiment-là de dire « Hey, dans le marché de Québec, j'anime l'émission du matin. » Tu sais, c'est quand même quelque chose. Là, moi, j'arrive, j'ai à peu près 1 an d'expérience en radio. On me confie une émission du matin en remplacement, de pouvoir aussi faire de la création publicitaire qui était très créative ici. Là, c'était beaucoup moins commercial que ce que je faisais, où là, c'était très, très, très carré, dans un 30 secondes, ce que j'avais déjà fait, alors que là, on pouvait vraiment avoir de la liberté. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a attiré à rester plus longtemps, là, toute les possibilités de tout ce qu'on pouvait faire là, très rapidement à mes débuts ici.
Raymond, donc toi, tu commences notamment, bon, tu nous as parlé de tes chroniques, mais là, en tant qu'animateur à l'émission du matin, avant 9h, tout est possible. Tu as tenu l'émission de 2006 à 2011. On parle d'une durée de 2 heures à l'époque. C'est drôle, c'est revenu à plusieurs reprises. Quand on parle de l'émission du matin, on parle de aussi tous les chapeaux qu'il faut porter, une équipe peut-être de chroniqueurs qu'il fallait gérer. Toi, quel souvenir tu en gardes de cette période-là?
Mais j'ai fait une période d'apprentissage. Dans la mesure où c'est commencé par un contrat d'été aussi, dans le fond, un contrat de remplacement comme étudiant. Et finalement, la directrice de la programmation à l'époque, Marjorie Champagne, a choisi de juste rester à la direction de la programmation, de me laisser l'émission du matin à l'automne. Et donc, initialement, tu prends les souliers de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, on dit, bon, OK, là, ça va devenir tes souliers à toi. Donc, d'une tentative, si on peut dire, d'une exploration estivale, ben là, ça devient un contrat automnal. Et là, c'est confrontant. Parce que, dans le fond, t'as pas tant d'expérience que ça. T'as jamais fait de radio de cette ampleur-là. Je veux dire, c'est 2 heures par jour. Donc, qu'est-ce que c'est mon émission? Qu'est-ce que je suis moi? Et j'ai l'impression que pendant quelques années, ben, l'émission, tranquillement, s'est cherchée pendant que moi, je me cherchais aussi comme animateur. Et à un moment donné, ben, tu trouves un peu ta formule. À un moment donné, tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ou qu'est-ce que tu as envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire du sous une autre station ou de faire autre chose? Tranquillement, c'est que tu en arrives à moins être ébranlé par cette liberté-là, puis au contraire, tu te l'appropries. Et après ça, ben, ça devient un laboratoire, un patchwork. Je pense que c'est monté jusqu'à 40-50 collaborateurs bénévoles aussi à l'émission. J'ai été obligé d'ajouter une demi-heure en fin de parcours aussi, de faire une émission de 2h30 parce qu'il y avait trop de matériel à dire, à faire. Une opportunité aussi d'apprentissage qui est assez ahurissante parce que finalement, tu te ramasses avec plein d'experts ou plein de gens qui sont en train de se forger des expertises, qui viennent te parler de plein de sujets. Et toi, faut que tu puisses jaser avec eux autres. Donc, faut que tu apprennes aussi. Faut que tu aies de l'air un minimum informé. Et finalement, ben, t'sais, pour le généraliste que j'aime être, ça a été, dans le fond, vraiment une belle, belle, belle période.
Mais ça peut sembler banal, là, de dire, j'avais 40-50 chroniqueurs, mais il faut les attirer, ces gens-là. Mmh. Ça veut dire que les gens avaient envie de venir ici, de faire de la radio avec Raymond de livrer la chronique, de se lever tôt, parce que les chroniques n'étaient pas toutes à 9h.
Les premières étaient à 7h30.
Ben, c'est ça.
C'était en direct.
Oui, c'est ça. Fallait être là. Donc, les gens voulaient aussi venir travailler avec Raymond le matin.
Et les former aussi, par la même occasion.
Et les former. Je trouve, comme on l'avait dit à l'occasion de la rencontre avec Éric Dussault, qu'avec Raymond et Tania, nous avons de parfaits exemples de polyvalence. Et cette polyvalence se manifeste, entre autres, dans des émissions du retour et des émissions en sortie. Et Tania, tu es devenue, je pense, une spécialiste des émissions en sortie.
Oui.
J'aimerais que tu nous parles de ça, parce que effectivement, il faut réagir tout de suite. Il y a des gens, il y a du bruit, il y en a certains qui viennent pas. Donc, faut s'ajuster, s'adapter. C'est très, très, très formateur.
Mais oui, parce qu'il faut s'auto-réaliser en même temps, hein, parce que pendant qu'on anime, s'il y a quelqu'un qui se présente pas, quand on est en sortie, on peut pas juste laisser jouer des pièces musicales. Faut interagir, faut faire quelque chose. Donc, faut trouver un plan rapidement, souvent pendant qu'on parle, parce que sinon, il y a rien à l'antenne. Donc, c'était toujours un beau défi. Et oui, très formateur, mais c'était, pour moi, ça a toujours été un plaisir de faire de la radio, entre autres à cette émission là que j'ai animée pendant 10 ans au Sacrilège, qui a porté plusieurs noms, qui s'appelait Jamais comme tout le monde. À la fin, des artistes en prestation, le public est là. Donc, on parle à plein de gens en même temps. Et oui, c'est formateur parce que faut toujours avoir en tête notre public à la radio qui voit pas, puis faut aussi parler aux gens qui sont là, parce que faut pas les perdre, parce que c'est eux aussi qui sont en quelque sorte les plus importants parce qu'on les voit. Donc il y a tout ça à penser en même temps, puis une fois qu'on le...
Et tu as accordé beaucoup d'importance à l'émergence de talents locaux.
Oui.
De plus en plus à la relève. C'était comme dans notre mission, tu la prenais à cœur et tu l'exécutais.
Ben oui, c'est ce qu'il faut. Puis on a vu aussi dans les 15 dernières années les talents rester à Québec. Avant, automatiquement, on partait à Montréal, mais là, les gens ont commencé à rester. On a vu Patrice Michaud passer, il restait proche. Il me disait, Tania, si tu as besoin de quelqu'un, tu m'appelles, je reste à 500 pieds du sacrilège.
Vous vous êtes beaucoup impliqués tous les deux dans nos fameux radiotons.
Ben, on va peut-être faire une transition pour dire qu'au-delà de l'animation, ils ont occupé le poste...
Oh, ben, on n'a pas fini, on peut aller plus haut, j'ai gardé d'autres questions.
De direction de la programmation, ben, parce qu'ils les ont organisés, ces
Bien sûr, alors, organiser le contenu d'un radioton avec des artistes semblables, souvent, et puis la logistique, peut-être plus dans ton cas encore, à ces occasions-là. Bref, ça a été très important, ces radiotons, et vous avez apporté beaucoup.
J'ai fait les premiers de Tania, mais après ça, Tania s'est développée une expertise quand
même.
Je pense
que s'est développée une expertise.
Oui, ben c'est vraiment une grille horaire qu'on doit monter pour une fin de semaine.
Nouvelle programmation.
Exactement, mais qui va avoir lieu juste une fois et on veut ramasser 40 000 $. À l'époque, c'était ça. Mm-hmm. Donc, il y a quand même beaucoup de pression aussi sur cette programmation-là. Mais oui, c'était apprendre à l'Université du Tas, comme on disait dans notre émission Égale RG2 que je faisais avec des amis. Oui, c'est ça. D'apprendre à faire, et année après année, on apprend qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, à quelle heure commencer, qui appeler, comment alterner les prestations, les émissions parlées. Donc, c'est tout un art.
C'est comme un festival, oui, finalement.
C'est des fois, ça devient même comment structurer, parce qu'il y a toujours la réflexion à savoir est-ce que c'est une grille programmation synthétisée, mais une année, on s'était dit même, est-ce que c'est une émission, dans le fond, qui commence à midi le vendredi ou à 7h, parce
une seule
que
grande
moi, j'aime
émission.
Bien que ça prenne l'ampleur un peu trop. Là.
Oui.
Je pense que j'ai même amené le radioton dans la rue sur la 3e, il y a neigé.
Ouais,
en 2010,
ça,
c'était terrible.
Ah, il faisait froid. Là.
Mais il y a même une année où on s'était dit, bon, okay, on va faire une feuille de route de 7h le matin, le vendredi, jusqu'à 8h le soir, le dimanche. Une feuille de route minute par minute avec des invités, avec des cadres, des blocs, en laissant de la liberté aux animateurs, mais pour s'assurer qu'il y avait quand même l'effet une émission. On l'aura pas fait par la suite, ça a pris un temps fou.
Mais il fallait essayer des choses. On est là pour ça aussi, puis c'est la radio parfaite pour le faire.
Ça, c'est l'aspect, Jessica, de la création. CKRL comme médium de création, c'est-à-dire d'apporter des variations, des modulations sur des trucs qui sont habituellement formatés ou trop normés, je dirais.
Mais je pense que la meilleure idée qu'on a eue dans le Radioton ensemble, c'était de sortir le Radioton du studio pour l'amener dans les bureaux de la station et de décloisonner ce Radioton-là. Je pense que c'est ce qui a amené peut-être un souffle nouveau aussi à ce concept-là comme tel, de l'idée de partager un peu la fête qui fait son chemin et que tu t'es approprié par la suite là, et que tu y as fait faire beaucoup de chemin aussi.
Et juste pour l'odeur du studio à la fin, c'était une très bonne idée.
C'est vraiment sensuel, toi. C'est incroyable.
L'essence, la radio, hein, faut l'essence.
Oui. Quand t'étais rendu le premier jour à minuit le soir, c'était déjà intense après la première journée. Là.
Vous étiez content d'être auditeur à ce moment-là et de ne pas être dans le studio. Mais oui, on a sauté un petit peu, on a tellement de choses à vous raconter rien qu'avec Raymond et Tania, mais effectivement, alors, rappelez-moi les années, je les ai pas sous les yeux, Raymond, tu fais une co-direction de la programmation avec Tania. Comment ça arrive tout ça alors que tu es encore animateur du matin à ce moment-là?
Oui, enfin, on avait pris certaines responsabilités, entre autres, je pense à l'organisation des radiotons, des suivis avec les bénévoles et autres. Fait que, dans le fond, il est arrivé des circonstances où Danny Fortin, le directeur de la station, a dit, ben, voulez-vous faire un petit peu plus d'heures puis vous partager la direction de la programmation? Et c'était à l'époque où ça faisait quand même pas mal d'années qu'on se côtoyait. On est arrivé à bien travailler ensemble à ce moment-là. Je pense qu'on est arrivé à ce point-là dans notre démarche respective. Et je pense qu'après ça, ça s'est fait assez naturel où on n'a jamais même eu à discuter des tâches que chacun prenait. Je pense qu'on a trouvé chacun la gamme de charges qu'on avait envie de prendre et ça s'est fait de façon complètement organique.
Oui, c'était vraiment très naturel et on n'a absolument pas la même méthode de travail, ni un ni l'autre, mais nos bureaux étaient côte à côte, donc je pense qu'on savait, comment travaillait l'autre. Puis, comme tu l'as dit, Raymond, on s'est jamais assis pour dire, toi, tu vas faire les communications. Moi, je vais parler. On n'a jamais fait ça et pourtant, ça s'est fait naturellement.
Oui, puis dans les premières années, je pense que j'avais pris la job un peu de structuration parce que c'est là-dedans que j'avais une idée. Tania, t'avais envie de faire plus les communications avec les bénévoles, les relations. Fait qu'en même temps, on était deux, puis des fois, ça permet de faire un peu du bon cop, bad cop aussi. Dans la mesure où, si un bénévole, il y avait un petit froid avec moi parce que j'avais proposé quelque chose qui l'intéressait moins, mais de toute façon, c'était Tania pour les suivis réguliers. Donc, ça s'est bien adonné parce que, veux pas, quand on a repris la grille de programmation, c'était devenu un patchwork où il y avait plus de cohérence d'heure en heure en ce que t'écoutais. Donc, les émissions étaient un peu n'importe où. Il y avait pas, OK, il y a toujours une émission qui commence à 5h30, OK, il y a toujours une émission qui commence à midi le samedi. Donc, c'est difficile de créer des habitudes d'écoute comme ça. Alors, on s'était dit, la première chose qu'on doit faire, c'est de systématiser la grille. Et là, ça veut dire de convaincre plein de bénévoles de changer leurs habitudes, de changer leur horaire.
C'est pas facile.
Il faut être clair. Quand on est... Les directeurs de la programmation passent à CKRL, les bénévoles restent. Donc, il y a une dynamique aussi de... On doit pas imposer aux bénévoles, on doit convaincre, discuter, échanger trouver des approches qui vont être consensuelles, mais dans un objectif commun qui était, dans notre cas, au départ, nettoyer la grille.
Moi, j'ai développé ma diplomatie et mon tact en travaillant ici. Je suis peut-être partie de 5% à 124%.
Ah oui.
Alors, en 10 ans, tu l'as fait 10 ans, toi, pratiquement.
Ouais, 7 ans, la direction de la programmation.
Une progression fulgurante.
Ah oui. Fulgurante. Ben, pas le choix.
Et le pire dans tout ça, c'est que je me souviendrai très bien lors de ton émission de départ au Sacrilège, Tania, en 2018, Danny Fortin racontait comment il t'avait proposé la direction de la programmation et tu lui as d'abord dit non.
Je vois jamais mon potentiel, disons-le comme ça. Donc je me disais moi je suis une animatrice, je vois pas gérer une centaine de bénévoles ou prendre des décisions, faire des grilles de programmation, donc ça me semblait complètement fou, mais finalement j'ai accepté.
Tu t'es laissé convaincre. Par quoi?
J'ai fait 7 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est un record, je pense que c'est inscrit ici.
Ah, je sais pas.
Oui, c'est un record.
C'est un record.
Tu détiens un record.
En direction de la programmation, je pense que oui.
Ça a rarement dépassé 3-4 ans.
Mais j'ai aimé ça. C'est la possibilité de tenir une radio à bout de bras. C'est incroyable.
Oui, puis quand on parlait de relève, d'être très, très, très près de ces gens-là, de cette effervescence-là.
Mais oui.
Ouais.
C'est le moment archive. Je vais tenter de vous surprendre, mais je sais que vous connaissez quand même un peu vos archives. Tania,
drôle, moi, j'oublie tout.
Oui. Tania, j'ai retrouvé, on parlait de Radioton. Je pense que le Radioton 2010, en fait, c'est celui que vous avez co-organisé ensemble, ou il y en a eu plusieurs?
On était impliqués avant 2011, aussi.
2011, ouais.
OK. Donc là, vous parliez, des émissions qui déménagent dans les bureaux de CKRL, mais on était beaucoup en sortie aussi. Et Tania, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu animais en direct du café équitable.
Nagua.
Pas plein Nagua.
Le concours de spaghettis.
C'est ça.
Ah oui,
voilà.
Oui.
Alors Tania, avec vous la Pépé. Connaissez pour des entrevues culturelles avec des artistes en tout genre, mais là attention, Tania fait une entrevue sur le spaghetti.
Mais parlons de parler plus précisément de spaghetti. En premier lieu, parce qu'on est dans un dîner spaghetti. Nous, on a tendance à le faire banalement au Québec. C'est comme le repas classique, le dépanneur. Et pour savoir si le spaghetti est prêt, est-ce qu'il faut vraiment tirer sur le mur? Si ça colle, c'est prêt?
Non, je ne crois pas. Ah. Ce sont des histoires un peu de grand-père qui sont... je crois que pour avoir une bonne cuisson de pâte, il faut d'abord avoir de l'eau bouillante salée. Et tout dépendant de la qualité de la pâte qu'on fait cuire, à ce moment-là, ça prendra quelques minutes, donc 5-7 minutes, tout dépendant de la pâte que vous utilisez.
Donc c'est dans l'eau salée?
Dans l'eau salée bouillante.
Est-ce qu'on met de l'huile aussi?
Vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Je pense que...
Des questions tellement pertinentes.
Mais quand même, moi je te trouve très engagé dans l'entrevue.
Mais c'est ça l'idée de cette émission-là, c'est que Pépé, quand il venait ici, disait qu'il avait la meilleure recette de sauce à spaghetti. Oui. Et on s'est dit, ben on va vérifier. Donc on organise un concours de sauce à spag en disant, Pépé, t'amènes la tienne. Puis là, il y a plein de gens qui ont amené la leur. Finalement, c'était ça la Pépé qui avait gagné.
Je me souviens pas, mais c'est drôle.
Du pépéroni. Puis c'était un peu dans la logique aussi. On se disait, ben tu sais, l'entrevue carrière sur le travail de l'artiste, on l'a fait déjà en saison régulière.
Oui.
Donc l'artiste qu'on amène au Radioton, on veut le mettre dans un autre contexte.
C'est pas le même type d'entrevue.
Exact, pour que on sente justement qu'on est ailleurs, qu'on n'est pas en programmation régulière, qu'on est dans une fête, exact.
Ouais. Ouais, exactement.
Donc le genre d'initiative assez insolite qu'on retrouvait pendant le Radioton de CKRL. Raymond, je remonte un petit peu dans tes débuts. Je pense qu'on te la ressortirait assez facilement. Donc entrevue culturelle aussi, Murrayhead par exemple, ou encore un certain Jean Leloup que tu as interviewé. T'as un souvenir précis de cette entrevue?
On parlait de méthodes de travail très différentes. En fait, je pense que moi, dans mon cas, je me prépare un livre quand je bâtis une entrevue. Ensuite, ben, dans le fond, je détermine s'il faut que je suive ou non le livre comme tel. Et avec Jean Leloup, ben, tu sais, rapidement après la première question, tu comprends que
Tu
mets tes questions
livre.
De côté, tu brûles le livre et tu le suis dans son délire. Mon Dieu, c'était 2008? 2007, je suis une bonne question.
Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, l'émission avant 9h, tout est possible. Et ben, comme on l'a dit avant de partir en pause, on va maintenant discuter avec Jean Leloup. Vous avez sûrement entendu parler de ce nouvel album au fil des dernières semaines, des derniers mois. L'album s'appelle « Mille excuses, Milady ». Le disque est en vente depuis le 28 avril dernier. Et Jean Leloup est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors ben, commençons par la base, là. Comment on le présente, cet album-là? Je me suis astreint de le présenter. Je me suis dit, je vais laisser à Jean Leloup le plaisir de le faire.
Ben, je pense que c'est mon album le moins compliqué. Le moins compliqué parce que j'ai toujours eu le réflexe quand je faisais un album de dire, bon, là, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Puis là, on avait beaucoup de musiciens invités, puis beaucoup de travail pour essayer de trouver des arrangements, des idées, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'ai des chums, ils m'ont dit, pourquoi tu fais pas tes trucs, tu sais, comme à guitare? On aime ça quand tu fais des chansons à guitare. On aime ta voix puis ta guitare. J'ai dit, mais c'est pas assez, tu sais. Puis on aime ça. Là, c'est My Baby, sans dents, qu'on aimait ça. J'ai dit, ouais, mais c'est un peu ordinaire. Non, on aime ça.
Les moments parfaits ne reviennent jamais.
C'est toujours amusant de se réentendre comme tel à d'autres âges comme ça, là, puis de...
Mais de déléguer la présentation de l'album à Jean Leloup, tu avais osé.
C'est le début d'entrevue facile, on se commet pas.
Voilà.
On se commet pas, on laisse l'artiste voir comment on l'amène, parce que je t'ai intimidé. Donc, je pense c'est une stratégie de fuite un peu, puis après ça, de positionnement par rapport à ce que lui va amener.
Mais je pense que c'est une bonne idée, parce que de dire quelque chose à propos de la musique de Jean Leloup à Jean Leloup... Ça se peut que cette journée-là, c'est pas comme ça qu'ils le sentent. Puis que finalement, t'as juste l'air niaiseux. Donc, moi, je trouve que t'as bien fait.
Oui, puis en BD, à ce temps, je me le permets un peu plus. Oui. Parce que là, tu dis, OK, ça fait 12 ans que j'en parle, donc je suis capable d'analyser puis d'amener quelque chose. Mais jeune Raymond en musique, effectivement, c'est on va prendre la voie sécuritaire pour commencer.
Vous venez d'avoir une leçon d'introduction, d'entrevue par Raymond Fourier et Tania Momont. On va aller sur la fin de, pas de votre implication, parce que Raymond est encore là, hein, avec la vie en BD. On n'a même pas placé le mot BD aussi un petit peu quand même pendant cette émission. Alors que c'est pour ça qu'on te connaît aujourd'hui, La Vie en BD, magazine bénévole que tu animes depuis 12 ans maintenant.
Oui, depuis 12 ans.
Toujours la même passion, et surtout que le milieu de Québec est encore plus effervescent en BD qu'il ne l'était
oui,
avant.
Oui, mais à un moment donné, tu fais le tour aussi. Fait que ouais. C'est le défi un peu de faire évoluer une émission pour garder l'intérêt. À chaque année, je me demande est-ce que c'est la dernière ou est-ce que j'en fais une de plus. Finalement, c'est comme ça s'étire, mais faut développer des concepts, des approches. Et tranquillement se demander, ben dans le fond aussi, on parlait d'utilité. Puis je pense que c'est valide pour la BD, mais c'est valide aussi pour les émissions de théâtre, pour les émissions d'art visuel et autres. C'est des médiums pour lesquels il y a une certaine documentation médiatique, mais il y a pas tant de magazines de fond qui vont le faire dans une perspective locale, provinciale, régionale non plus. Alors de faire des entrevues d'une demi-heure, d'une heure avec des créateurs, d'aller jusqu'au bout de la démarche et ces créateurs-là, ben peut-être qu'ils vont s'imposer, peut-être qu'ils vont faire école. Ben c'est un peu de contribuer, j'ai l'impression, à l'histoire d'un médium ou à l'archive d'un médium. On avait réalisé ça à l'époque de l'aérospatiale, entre autres, on disait, mais mon Dieu, on est en train quand même de, surtout on a commencé à archiver les émissions, à les rendre disponibles en ligne, ça a changé un peu, je pense, ça fait prendre un recul par rapport au travail qu'on fait, où on n'est pas uniquement dans l'instant présent, mais on se dit, ben ok, est-ce que je suis en train de créer un document ou une entrevue, une discussion qui va avoir potentiellement une valeur au-delà de sa première diffusion, dans le fond.
Pour avoir fait des animations au Festival Québec BD, quand on fait une recherche, ben souvent, ce que je trouvais, c'est une émission de Raymond.
Ben oui, c'est ça.
C'est ce que j'écoutais pour me préparer.
Donc, on peut toujours écouter Raymond Poirier à CKRL, que ce soit en chronique le matin, la vie en BD également. Merci beaucoup, Raymond Poirier. On aurait pu parler encore des heures, on le sait très bien. Tania, de ton côté, ben, en 2018, tu quittes ton poste de direction, enfin, en fait, tu quittes CKRL, ou presque, hein, parce que tu avais encore une émission bénévole, d'ailleurs liée à la BD.
Oui, ben on prenait la relève là, de manière beaucoup plus légère l'été avec E égale RG2, un beau projet où on parlait de bande dessinée, on relisait Tintin, mais en tant qu'adulte avec des amis à moi, là, donc c'était un beau plaisir.
Donc même en tant que bénévole, ça a continué, puis après plusieurs emplois ailleurs, mais tu dis, je te cite, mon expérience à CKRL, c'est la pierre angulaire de ce qu'est Tania Beaumont aujourd'hui.
C'est beau.
Ben voilà, tout est dit dans cette phrase-là, autant dans le travail que comme personne, parce que les rencontres humaines, ben, ont fait que je suis cette personne aujourd'hui.
C'est de la musique à mes oreilles.
Alors même si vous l'écoutez ailleurs, on reste évidemment encore très attachés à vos implications, à Tania Beaumont particulièrement aussi. Merci beaucoup d'avoir témoigné. D'être venu sur tous ces souvenirs.
Merci de nous avoir reçus.
Denis Lelièvre, encore un gros merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Mon nom est Jessica Leb. J'étais ravie de vous accompagner pendant cette émission de 50 ans de CKRL. C'est pas fini. Il en reste encore quelques-unes pour retracer l'histoire de la station jusqu'à aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Ans de CKRL, animé par Denis Lelièvre, Jessica Leb et à la recherche Roger Tédrolet.
50 ans de radio vous a été présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable à Capitale Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Député fédéral de Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Et le ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.
Ici Louis Gagné, propriétaire de Alimentex, une boutique spécialisée dans les produits naturels et les aliments biologiques. Je suis honoré d'être le porte-parole à l'affaire du Radioton 2024 de CKRL. Cet événement revêt une importance capitale pour notre communauté. Je vous invite chaleureusement à manifester votre générosité envers cette station qui est à la fois un pilier culturel et communautaire essentiel de Québec. Je compte sur votre engagement et votre générosité. Merci.
Du 13 au 16 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac, présenté par Québecor en collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapie à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation.
Chante-moi la chanson.
Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeport sur chantadoussac.com.
vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnels, alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et de la bossa nova avec Eliane Elias et Mark Johnson.
When I look in your eyes, I see the two of us.
Mariant ses racines brésiliennes, sa voix et son jeu de piano dans un style unique, la talentueuse artiste vient partager son répertoire en compagnie du respecté contrebassiste. Ne ratez pas cette performance en duo attendue pour les deux artistes récipiendaires de prix Grammy. Le 4 mai, soyez aux premières loges pour le jazz brésilien d'Eliane Elias et de Mark Johnson au Palais Montcalm.